Holmes et se rendra chez lui demain à 4h30. Sir James se permet de préciser que l'affaire à propos de laquelle il désire consulter M. Holmes est très délicate et aussi très importante. Il espère donc que M. Holmes s'efforcera de se rendre libre et qu'il lui confirmera son accord par téléphone au Carlton Club.
Bien entendu, j'ai confirmé. Vous en dire un peu plus. Il a vaguement la réputation d'arranger des affaires délicates dont les journaux ne parlent pas. Vous vous rappelez sans doute ses négociations avec Sir George Lewis pour l'affaire du testament Hammerford. C'est un homme du monde naturellement enclin à la diplomatie. Je suis donc obligé de croire que la piste n'est pas mauvaise et qu'il a réellement besoin de notre assistance.
Vous avez dit notre ?
« Mais oui, Watson, si vous y consentez. »«
Ah, j'en serais très honoré. »«
Vous connaissez l'heure, 4h30. D'ici là, n'en parlons plus. »
À cette époque, j'habitais un appartement dans Queen Anne Street, mais aux hommes honnêtes, un peu snob, de son large visage rasé, et surtout de sa voix moelleuse, agréable. Ses yeux gris brillaient de franchise, et la bonne humeur se lisait autour de ses lèvres souriantes, mobiles. Son chapeau clair, sa redingote noire, tous les détails de son costume, depuis la perle qui était posée sur sa cravate de satin sombre jusqu'aux guêtres couleur de lavande sur les souliers vernis, illustraient le soin méticuleux qu'il consacrait à s'habiller et qui l'avait rendu célèbre. Notre petite pièce semblait écrasée par la présence de ce grand aristocrate dominateur.
Naturellement, je m'attendais à rencontrer le docteur Watson, fit-il en particulier la violence. Je crois que dans toute l'Europe, il n'existe pas d'individu plus dangereux, en particulier la violence. Je crois que dans toute l'Europe, il n'existe pas d'individu plus dangereux.
J'ai eu plusieurs adversaires auxquels s'appliquait ce terme flatteur, répondit Holmes en souriant.
Fumez-vous ? Alors vous voudrez bien m'excuser, car j'allume ma pipe. Si votre homme est plus dangereux que feu le professeur Moriarty ou que le colonel Sébastien Morand, toujours en vie celui-là, il vaut la peine que vous me le présentiez. Puis-je vous demander comment il s'appelle ?
Avez-vous jamais entendu parler du baron Gruner,
de cet assassin autrichien ?
Sir James Damery retira ses gants glacés et se mit à rire.
Il n'y a pas moyen de vous battre, monsieur Holmes. Merveilleux. Ainsi, vous savez déjà que c'est un assassin.
Oui, c'est mon métier de suivre dans les détails les affaires criminelles du continent. Qui aurait pu lire ce qui s'est passé à Prague et conserver des doutes sur la culpabilité de l'homme en question ? Il a fallu, pour le sauver, un point de droit et la mort suspecte d'un témoin. Je suis aussi persuadé qu'il a tué sa femme dans ce prétendu accident au col du Splugen que si je l'avais vu l'assassiner. Je savais également qu'il était arrivé en Angleterre et que tôt ou tard il me donnerait du travail. Eh bien, de quoi s'est rendu coupable le baron Grün ?
Je puisse l'assurer que son nom respecté et estimé n'a été mêlé en rien à l'affaire. Ses motifs sont extrêmement honorables et chevaleresques. Mais il préfère garder l'incognito. Inutile de vous préciser, n'est-ce pas, que vous recevrez des honoraires et que de ce côté vous avez les mains parfaitement libres. Je suis sûr que le nom réel de votre client ne vous intéresse guère.
Je suis impuissant. Un être humain peut-il se trouver placé dans une position plus pénible ?
Difficilement. Alors vous sympathiserez avec le client dont je représente les intérêts.
« Je n'avais pas compris que vous n'étiez qu'un intermédiaire. Qui est le principal intéressé ?»«
Monsieur Holmes, je dois vous prier de ne pas insister là-dessus. Il est important que je puisse l'assurer que son nom respecté et estimé n'a été mêlé en rien à l'affaire. Ses motifs sont extrêmement honorables et chevaleresques, mais il préfère garder l'incognito. Inutile de vous préciser, n'est-ce pas, que vous recevrez des honoraires et que de ce côté vous avez les mains parfaitement libres. Je suis sûr que le nom réel de votre client ne vous intéresse guère.
« Je regrette, » dit Holmes. « J'ai l'habitude de me heurter au mystère à un bout de mes affaires, mais un mystère à chaque bout est trop compliqué. Je crains, Sir James, d'avoir à décliner votre proposition. »
Notre visiteur était grandement troublé. Sa grosse figure sensible s'assombrit de déception.
« Vous mesurez mal l'effet de vos paroles, monsieur Holmes. Vous me placez devant un dilemme fort grave, car je ne doute pas que vous seriez fier de prendre l'affaire en main si je vous en fournissais tous les éléments. Et cependant, une promesse m'empêche de vous en révéler un. Puis-je du moins vous exposer tout ce qu'il m'est permis de vous dire ?
Si vous voulez, étant bien entendu que je ne m'engage en rien.
Soit. Premier point. Vous avez dû entendre parler du général de Merville.
De Merville, le célèbre chef militaire ? Eh bien, oui.
Il a une fille. Ignorait-il le véritable tempérament du baron Gruner ? Le scélérat s'est attaché à la demoiselle avec un tel succès qu'il a gagné complètement, absolument son cœur. Vive d'un démon.
Le baron Gruner exerce donc une emprise sur elle.
L'emprise la plus puissante quand il s'agit d'une femme. Il la tient par l'amour. Il est, comme vous le savez peut-être, extraordinairement bel homme. Il a des manières fascinantes, une voix douce et cet air romanesque et mystérieux qui plaît tant aux demoiselles. On dit de lui qu'il tient tout le beau sexe à sa merci et qu'il a maintes fois vérifié cette assertion.
Mais comment un tel coquin a-t-il pu faire la connaissance d'une jeune fille comme
pour un martyr innocent ? Elle n'écoute que sa version. Elle ne veut rien entendre des autres.
Mon Dieu, mais vous avez sûrement, par inadvertance, laissé échapper le nom de votre client.
Les organisateurs ignoraient-ils le véritable tempérament du baron Gruner ? Le scélérat s'est attaché à la demoiselle avec un tel succès qu'il a gagné complètement, absolument son cœur. Ce serait peu dire qu'elle l'aime. Elle éprouve à son sujet une indulgence ridicule. Elle en est obsédée. Or, lui, rien ne compte sur la terre. Elle ne supporte pas le moindre mot dirigé contre lui. Tout vouait à la jeune fille une sollicitude paternelle depuis le temps où elle portait des jupes courtes. Je ne vois rien qui puisse motiver une action de Scotland Yard. C'est à cette sottise.
Connaît-elle l'épisode autrichien ?
Le rusé démon lui a conté tous les scandales déplaisants de son passé, mais toujours de façon à se faire passer pour un martyr innocent. Elle n'écoute que sa version. Elle ne veut rien entendre des autres.
Mon Dieu, mais vous avez sûrement, par inadvertance, laissé échapper le nom de votre client. Il sait.
Je crois que je peux vous le promettre, dit-il.
Et j'ajoute que votre problème m'intéresse et que je suis disposé à m'en occuper. Comment puis-je vous toucher le cas échéant ?
On me trouvera toujours par l'intermédiaire du Carlton Club, mais en cas d'urgence, voici mon numéro personnel, XX31.
Holmes le nota et demeura
incapable de lutter contre un coquin plein de vigueur et d'astuce comme cet Autrichien. Mon client est un vieil ami qui connaît intimement le général depuis de longues années et qui a voué à la jeune fille une sollicitude paternelle depuis le temps où elle portait des jupes courtes. Je ne vois rien qui puisse motiver une action de Scotland Yard.
C'est... Oui. En dehors de ce que vous m'avez dit, ne pouvez-vous pas me donner de plus amples renseignements sur cet individu ?
Il a des goûts dépensiers, c'est un fanatique des chevaux. Pendant quelque temps, il a joué au polo à Hurlingham, mais cette affaire de Prague a été divulguée et il a dû démissionner. Il collectionne livres et tableaux. Il a un sens artistique.
Je crois que je peux vous le promettre, dit-il. Et j'ajoute que votre problème m'intéresse et que je suis disposé à m'en occuper. Comment puis-je vous toucher le cas échéant ?
On me trouvera toujours par l'intermédiaire du Carlton Club, mais en cas d'urgence, voici mon numéro personnel, XX31.
Holmes le nota et demeura assis, le même sourire aux lèvres, avec son carnet encore ouvert sur les genoux.
L'adresse actuelle du baron, s'il vous plaît ?
Vernon Lodge, près de Kingston. C'est une grande maison. Il a eu de la chance dans de récentes spéculations financières, plutôt douteuses d'ailleurs, et il est riche, ce qui le rend encore plus dangereux.
Est-il à Londres à présent ?
Oui.
En dehors de ce que vous m'avez dit, ne pouvez-vous pas me donner de plus amples renseignements sur cet individu ?
Il a des goûts dépensiers, c'est un fanatique des chevaux. Pendant quelque temps, il a joué au polo à Hurlingham, mais cette affaire de Prague a été divulguée et il a dû démissionner. Il collectionne livres et tableaux. Il a un sens artistique indéniable. Je crois qu'il est une autorité reconnue en porcelaine chinoise et qu'il a écrit un livre sur ce sujet.
« Un esprit complexe, » fit Holmes. « Tous ces grands criminels sont des esprits complexes. Mon vieil ami Charlie,
sein de la formidable pègre londonienne, et il lui fournit des renseignements qui se révélèrent souvent d'une importance décisive. Si Johnson avait été un indicateur de la police, il aurait été rapidement
dé- votre client que je vais prendre en main le baron Gruner. Je ne peux pas en dire davantage. De mon côté, j'ai diverses sources de renseignements et j'ose... »
Auréolé de ces deux condamnations au bagne, il pénétrait dans tous les nightclubs, tous les asiles de nuit, tous les cercles de jeu de la capitale, et son cerveau fécond ainsi que ses dons d'observation qu'il avait oublié ma présence. Finalement, il revint sur terre.
« Alors, Watson, quoi de neuf ?»«
J'aurais cru que vous seriez allé voir tout de suite la jeune fille en question. » »«
Mon cher Watson, si son vieux père brisé de chagrin ne parvient pas à l'émouvoir, comment moi, un inconnu, y réussirais-je ? Et pourtant, si tout le reste échoue, il faudra bien que je m'y décide. Mais je pense que nous devons commencer en partant d'un angle différent. M'est avis que Chinwell Johnson pourrait m'aider.
Je n'ai pas eu jusqu'ici l'occasion de citer le nom de Chinwell Johnson, parce que
des énigmes insolubles pour un mal, un meurtre peut être pardonné, une offense bien moindre peut ulcérer. Le baron Gruner m'a dit...
Il vous a dit ?
Oh, c'est vrai, je ne vous avais pas communiqué mes projets. Eh bien, Watson, j'aime le combat de près. J'aime affronter un adversaire face à face et voir de mes propres yeux...
Il fut son agent au sein de la formidable pègre londonienne et il lui fournit des renseignements qui se révélèrent souvent d'une importance décisive. Si Johnson avait été un indicateur de la police, il aurait été rapidement démasqué. Mais comme il travaillait sur des affaires qui n'aboutissaient jamais directement devant les tribunaux, ses anciens compagnons ignoraient tout de ses nouvelles activités. Auréolé de ses deux condamnations au bagne, il pénétrait dans tous les nightclubs, tous les asiles de nuit, tous les cercles de jeu de la capitale, et son cerveau fécond ainsi que ses dons d'observation avaient fait de lui un agent de renseignement idéal. C'était donc à cet informateur qu'avait pensé Holmes. Il me fut impossible de suivre toutes les démarches qu'entreprit immédiatement mon ami, car j'avais de mon côté différentes tâches professionnelles à accomplir. Mais il me fixa rendez-vous le soir chez Simpson, où, assis devant une petite table près de la fenêtre, il me donna quelques nouvelles, tout en observant le flux des passants dans le Strand.
« Johnson est parti en chasse, » me dit-il. Il me ramènera peut-être quelques ordures tirées des recoins les plus sombres du monde souterrain de la pègre, mais c'est là-dedans, parmi les racines du crime, que nous devons fouiller pour percer les secrets de cet homme.
Mais puisque la demoiselle ne veut pas admettre ce qui est déjà connu, pourquoi une nouvelle découverte faite par vous la détournerait-elle de son dessein ?
Oh, qui sait, Watson ? Le cœur et l'esprit d'une femme sont des énigmes insolubles pour un mâle. Un meurtre peut être pardonné, une offense bien moindre peut ulcérer. Le baron Gruner m'a dit...
Il vous a dit ?
Oh, c'est vrai, je ne vous avais pas communiqué mes projets. Eh bien, Watson, j'aime le combat de près. J'aime affronter un adversaire face à face et voir de mes propres yeux la substance dont il est fait. Après avoir remis mes instructions à Johnson, j'ai pris un fiacre, je suis allé à Kingston et j'ai trouvé mon baron d'une humeur très aimable.
Vous a-t-il reconnu ?
Il n'a pas eu de difficulté pour me reconnaître, puisque je m'étais fait précéder de ma carte. C'est un excellent antagoniste, froid comme du marbre, qui a la voix suave et douce de certains de vos malades à la mode, mais qui est aussi venimeux qu'un cobra. Il a de la branche. Je le considère comme un véritable aristocrate du crime qui vous invite à prendre une tasse de thé, mais qui a la cruauté d'un tombeau. Oui, je suis ravi de m'être intéressé au baron Adelbert Grüner.
Vous dites qu'il a été aimable ?
Le chat qui ronronne quand il voit une souris approcher. L'amabilité de certaines personnes est plus mortelle que la violence d'individus plus grossiers. Sa manière de m'accueillir le dépeint assez bien.
Je me disais aussi que je finirais par vous rencontrer quelque jour, monsieur Holmes,
m'a-t-il dit.
Vous avez été sans doute engagé par le général de Merville afin d'empêcher mon mariage avec sa fille Violette, n'est-ce pas ?
J'ai répondu que oui.
Mon cher monsieur, m'a-t-il déclaré, vous ne ferez que compromettre une réputation pourtant bien méritée, la vôtre. Vous ne pouvez pas réussir dans cette affaire. Vous vous attelleriez à une tâche ingrate qui ne serait pas sans danger. Permettez-moi de vous conseiller vivement de vous retirer, et tout de suite.
Voilà qui est curieux, ai-je répliqué. C'était exactement l'avis que j'avais l'intention de vous donner. J'ai du respect pour votre cervelle, baron, et le peu que j'ai vu de votre personnalité ne l'a pas diminué. Bien, parlons d'homme à homme. Personne ne veut revenir sur votre passé et vous causer des ennuis. Le passé est le passé, et vous nagez maintenant dans des eaux claires. Mais si vous persistez dans l'idée de ce mariage, vous soulèverez contre vous une foule d'ennemis puissants qui ne vous lâcheront que lorsqu'ils vous auront rendu l'Angleterre intenable. Le sujet en vaut-il la peine ? Vous seriez plus avisé de laisser tranquille la jeune fille. Il ne vous serait pas agréable que certains épisodes de votre passé lui fussent connus. Le baron possède quelques poils comestiqués sous son nez qui ressemblent aux antennes d'un insecte. Ils se sont mis à s'agiter de plaisir pendant qu'il m'écoutait et il m'a répondu d'abord par un petit rire.
Pardonnez mon hilarité, monsieur Holmes,
m'a-t-il dit ensuite.
Mais c'est vraiment drôle de vous voir essayer de jouer. Elle avait vécu.
Je vous présente mademoiselle Kitty Winter, annonça Chinwell Johnson en agitant sa main grasse. Ce qu'elle sait, elle parlera toute seule. J'ai mis la main
tout mineur.
À ce que vous croyez ?
À ce que je sais. Permettez-moi de vous éclairer complètement, car mes cartes sont si fortes que je peux les jouer sur table. J'ai eu la chance. Nous sommes de vieux copains, Porky et moi. Mais, sapristi, il en existe un autre qui devrait être dans un enfer plus bas que nous s'il y avait une justice au monde. C'est l'homme dont vous vous occupez, monsieur Holmes.
Sans que certains intrigants, certains individus dangereux, je suppose que vous vous reconnaissez, iraient la trouver et lui raconteraient ses histoires. Et je l'ai mise en garde tout en lui indiquant comment les recevoir. Avez-vous entendu parler de la suggestion post-hypnotique, monsieur Holmes ?
Vous n'avez pas besoin de vous occuper de mon passé, monsieur Holmes. Il n'a aucun intérêt. Je suis simplement ce qu'a fait de moi Adelbert Grüner. Si je pouvais l'entraîner !»
Elle brandit frénétiquement ses mains. « Elle n'usera pas un rendez-vous. Elle est très docile aux volontés de son père, sauf sur un petit détail. »
« Eh bien, Watson, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus grand-chose à dire. » Aussi ai-je pris congé avec toute la froideur et la dignité possible. Mais au moment où j'avais la main sur la poignée de la porte, il m'a arrêté.
À propos, monsieur Holmes, vous avez connu Lebrun, le détective français ?
Oui, bien sûr.
Savez-vous ce qui lui est arrivé ?
Bien, je crois qu'il a été rossé par quelques... Elle croit que ce sont des calomnies.
Ne pouvez-vous pas lui fourrer des preuves sous ses yeux d'idiote ?
Vous, nous aideriez-vous à l'éclairer ?
Quoi ? Ne suis-je pas une preuve en chair et en os ? Si je me trouvais devant elle, et si je lui disais comment il m'a traité ?
Vous le feriez ?
Si je le ferais ? Ah oui, alors !
Eh bien, cela vaudrait la peine d'essayer. Mais il lui a confessé la plupart de ses péchés, et elle l'a absous. Je ne crois pas qu'elle accepte de rouvrir le débat.
Je lui prouverai qu'il ne lui a pas tout dit. déclara Mademoiselle Winter.
« J'ai été plus ou moins au courant de 2 ou 3 meurtres qui n'ont pas fait autant de bruit. Il parlait de... »«
Assassiner sa dernière femme, je dirais qu'il est très important qu'il n'épouse pas cette jeune fille. Par ailleurs, il y a le client. Alors, ne discutons pas de cela. Quand vous aurez terminé votre café, vous feriez aussi bien de m'accompagner, car le joyeux Chinwell va venir me faire son rapport. »
Il était déjà à Baker Street quand...
Venez, qui explique et a plani tout, je l'aurais quitté cette nuit-là. Il a un livre relié en cuir brun avec une serrure, et ses armes sur la couverture. Je pense qu'il avait bu cette nuit-là, sinon il ne me l'aurait pas montré.
Ce livre ?
Je vous dis, monsieur Holmes, que cet homme collectionne les femmes, et qu'il éprouve autant d'orgueil à sa collection de femmes que d'autres à leur collection de...
était si ravagé par le péché et le chagrin qu'on devinait quelles années terribles elle avait vécues.
« Je vous présente, mademoiselle Kitty Winter, » annonça Chinwell Johnson en agitant sa main grasse. « Ce qu'elle sait, elle parlera toute seule. J'ai mis la main dessus, monsieur Holmes, moins d'une heure après avoir reçu votre message. »
« Je ne suis pas difficile à trouver, »
dit la jeune femme.
« N'importe qui peut me trouver. L'enfer, Londres, même adresse pour Porky Chinwell. Nous sommes de vieux copains, Porky et moi. » Mais, sapristi, il en existe un autre qui devrait être dans un enfer plus bas que nous s'il y avait une justice au monde. C'est l'homme dont vous vous occupez, monsieur Holmes.
Holmes sourit.
Je m'associe à vos bons voeux, mademoiselle Winter.
Si je peux vous aider à l'envoyer là...
Qu'on ne peut ni fondre ni revendre. D'accord, 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 fit Holmes. Eh bien, mademoiselle Winter, si vous vouliez revenir ici demain après-midi à 5 heures,
mais chez un homme et rarement chez une femme.
Vous n'avez pas besoin de vous occuper de mon passé, monsieur Holmes. Il n'a aucun intérêt. Je suis simplement ce qu'a fait de moi Adelbert Gruner. Si je pouvais l'entraîner...
Elle brandit frénétiquement ses mains.
Oh, si seulement je pouvais l'entraîner dans la fosse où il en a poussé tant.
Vous savez de quoi il s'agit ?
Porky Chinwell me l'a dit. Il court après une autre pauvre idiote et cette fois il veut l'épouser. Vous voulez l'en empêcher? Eh bien, vous en savez sûrement assez sur ce démon pour empêcher n'importe quelle jeune fille convenable et sensée de vouloir vivre dans la même paroisse que lui.
Elle a perdu la raison.
Elle haussa les épaules quand je lui demandai si son entretien avait bien tourné. Puis il me raconta l'histoire que je répète sous une forme adoucie.
Mon rendez-vous me fut... Elle croit que ce sont des calomnies.
Ne pouvez-vous pas lui... fourrer des preuves sous ses yeux d'idiote.
Vous, nous aideriez-vous à l'éclairer?
Quoi? Ne suis-je pas une preuve en chair et en os? Si je me trouvais devant elle, et si je lui disais comment il m'a traité...
Vous le feriez?
Si je le ferais? Ah oui, alors!
Eh bien, cela vaudrait la peine d'essayer. Mais il lui a confessé la plupart de ses péchés, et elle l'a absous. Je ne crois pas qu'elle accepte de rouvrir le débat.
Je lui prouverai qu'il ne lui a pas tout dit,
déclara Mademoiselle Winter.
J'ai été plus ou moins au courant de 2 ou 3 meurtres qui n'ont pas fait autant de bruit. Il parlait de quelqu'un de sa voix de velours, puis me regardait avec un œil tranquille et disait « Il est mort il y a un mois ». Il ne parlait pas pour ne rien dire, mais j'y faisais peu attention. Comprenez que je l'aimais. Tout ce qu'il faisait me plaisait, exactement comme à cette pauvre folle. Une seule chose me bouleversa. Oui, par le diable. Sans sa langue menteuse empoisonnée qui explique et aplanit tout, je l'aurais quitté cette nuit-là. Il a un livre relié en cuir brun avec une serrure, et ses armes sur la couverture. Je pense qu'il avait bu cette nuit-là, sinon il ne me l'aurait pas montré.
« Ce livre ?»«
Je vous dis, monsieur Holmes, que cet homme collectionne les femmes et qu'il éprouve autant d'orgueil à sa collection de femmes que d'autres à leur collection de mouches ou de papillons. Il a tout mis dans ce livre. »
Elle Winter l'a surpris un peu, je pense, mais elle nous désigna de fauteuils avec la mine de la révérende mère d'une abbaye recevant deux mendiants lépreux. « Si vous avez envie... »«
D'Adelbert Gruner, les âmes que j'ai ruinées. » Il aurait pu inscrire ce titre-là s'il y avait pensé. Néanmoins, ça ne sert à rien d'en parler, car le livre ne pourrait pas vous être utile, et s'il l'était, vous ne pourriez pas l'avoir.
Et où est-il?
Comment vous dire où il se trouve maintenant? Il y a plus d'un an que j'ai quitté Adelbert. quand j'étais avec lui, je savais où il le gardait. Par beaucoup de côtés, il ressemble à un chat. Il en a la propreté et la précision. Le livre est peut-être dans le vieux meuble de son bureau privé. Vous connaissez sa maison ?
Je suis allé dans son bureau, répondit Holmes.
Tiens, déjà ? Ah, vous n'êtes pas fainéant, si vous n'êtes parti en guerre que ce matin. Peut-être que le cher Adalbert a trouvé pour une fois un rival à sa taille. Le bureau où vous l'avez vu est celui qui contient les porcelaines chinoises, dans un gros buffet entre les fenêtres. Derrière sa table,
la honte, la peur, l'angoisse, le désespoir qu'elle se promettait en l'épousant. Toutes mes phrases furent impuissantes à amener un peu de couleur. De fait, on pouvait...
chez lui qui puisse intéresser un cambrioleur, à moins qu'il ne lui dérobe ses porcelaines chinoises.
Pas intéressant, trancha Chinwell Johnson avec l'autorité d'un expert. Aucun rosseleur ne voudrait d'un truc qu'on ne peut ni fondre ni revendre.
D'accord, 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 fit Holmes. Eh bien, mademoiselle Winter, si vous vouliez revenir ici demain après-midi à 5 heures, j'aurais entre-temps réfléchi à votre proposition de voir la jeune fille, et j'aurais examiné si un rendez-vous peut être aménagé. Je vous suis extrêmement obligé de votre collaboration. Je n'ai...
Qu'il m'aime, et que l'opinion du monde ne m'impressionne pas davantage que les piaillements des oiseaux de l'autre côté de la fenêtre. Si sa noble nature a jamais eu des défaillances, peut-être lui suis-je précisément destiné afin de la relever. Qui vous dira où l'on peut me trouver ?
Je ne revis pas Holmes avant le lendemain soir, où nous dînâmes ensemble à notre restaurant du Strand. Il haussa les épaules quand je lui demandai si son entretien avait bien tourné. Puis il me raconta l'histoire, que je répète sous une forme adoucie.
Mon rendez-vous me fut accordé sans aucune difficulté, car la jeune fille fait exprès de témoigner une abjecte obéissance filiale pour toutes les choses secondaires, afin de racheter sa désobéissance pour ses fiançailles. Le général me téléphona que tout était prêt, et la féroce me...
Et c'est par haine contre lui, par rancune, pour lui rendre...
Soldat, l'un de ces affreux castels gris de Londres, auprès desquels une église paraît frivole. Un chasseur nous introduisit dans le grand salon tendu de jaune. Là se trouvait la jeune fille qui nous attendait. Elle était pâle, grave, distante, aussi inflexible et froide qu'un névé sur une montagne. « Je ne vois pas très bien comment vous la dépeindre, Watson. Peut-être la rencontrerez-vous avant la fin de l'histoire. » Et vous pourrez utiliser vos dons d'écrivain. Elle est belle, mais de cette beauté éthérée d'un autre monde qu'on trouve parfois sur des fanatiques dont la pensée ne quitte jamais les cimes. Chez les vieux maîtres du Moyen-Âge, j'ai vu, ne lui avait pas saisi le poignet, elle aurait attrapé aux cheveux la fille du général. Je la tirai vers la porte, et j'eus la chance de la flanquer dans un fiacre sans soulever de scandale les extrêmes satires. Le spirituel est attiré par l'animal, l'homme des cavernes par l'ange. Ce cas est le pire de tous ceux que vous pourriez imaginer. Elle connaissait évidemment le motif de notre visite. Le bandit n'avait pas tardé à la prévenir contre nous. L'arrivée de Mademoiselle Winter l'a surpris un peu, je pense, mais elle nous désigna de fauteuils avec la mine de la révérende mère d'une abbaye recevant de mendiants lépreux. Si vous avez envie un jour de vous gonfler d'importance, mon cher Watson, prenez donc des leçons chez Mademoiselle Violette de Merville.
Monsieur,
me dit-elle d'une voix qui évoquait irrésistiblement le vent qui descend d'un iceberg,
votre nom ne m'est pas inconnu. Vous êtes venu ici, si j'ai bien compris, pour calomnier mon fiancé, le baron Gruner. Ce n'est que sur les instants...
Holmes. Je crois que je demeurai cloué sur place quelques instants. Il me semble qu'ensuite j'arrachai un journal des mains du marchand, que je me fis invectiver parce que je ne l'avais pas payé,
et que j'allais me réfugier devant la...
De la regarder comme j'aurais regardé ma propre fille. Je ne suis pas souvent éloquent. Je me sers de ma tête, non de mon cœur. Mais vraiment, je plaidais devant elle avec toute la chaleur des mots que je puisais dans mon tempérament. Je lui décrivis l'épouvantable situation de la femme qui a la révélation du caractère d'un homme seulement après qu'elle l'a épousé. Une femme qui doit subir les caresses de mains sanglantes et de lèvres impures. Je ne lui épargnais rien. La honte, la peur, l'angoisse, le désespoir qu'elle se promettait en l'épousant. Toutes mes phrases furent impuissantes à amener un peu de couleur.
Faut-il que j'ajoute qu'aussitôt je me jetai dans un fiacre et que je me fis conduire à Baker Street. À la porte, attendait le landau de Sir Leslie Oakshott. Je me heurtai dans le vestibule aussi.
De fait, on pouvait croire qu'elle vivait au-dessus de la terre dans une sorte de rêve extatique. Et pourtant, elle me répondit avec une précision toute matérielle.
« Je vous ai écouté patiemment, monsieur Holmes. L'effet de vos propos sur mon esprit est exactement celui que je vous avais prédit. Je sais qu'Adelbert, que mon fiancé a traversé de nombreux orages au cours desquels il s'est attiré des haines féroces et des aversions parfaitement injustes. Vous êtes le dernier venu de toute une série de calomniateurs. Il est possible que vous me vouliez du bien. » Quoique j'ai appris que vous étiez un agent payé et que vous auriez aussi bien défendu les intérêts du baron que ceux de ses ennemis. Mais n'importe, je veux que vous compreniez une fois pour toutes que je l'aime, qu'il m'aime et que l'opinion du monde ne m'impressionne pas davantage que les piaillements des oiseaux de l'autre côté de la fenêtre. Si sa noble nature a jamais eu des défaillances, peut-être lui suis-je précisément destiné afin de la relever.
Et ils avaient bien préparé leur fuite. Attendez un peu, j'ai mes plans. La première chose à faire est d'éteindre quand la fille intervint à la manière d'un tourbillon. Imaginez le feu et la glace face à face.
Je vais vous dire qui je suis,
s'écria-t-elle.
Ce rebut pour vous sera vraisemblablement le tombeau. Peut-être cela vaudra-t-il mieux. Je vous le dis, pauvre folle! Si vous épousez cet homme, il sera votre mort, ou bien il brisera votre cœur, ou bien il vous tordra le cou, mais vous n'échapperez pas à la mort. Ce n'est pas par amour pour vous que je parle. Je me soucie comme d'une guigne que vous viviez ou que vous mouriez. C'est par haine contre lui, par rancune, pour lui rendre...
Je m'arrangeai avec Johnson le soir même pour qu'il expédie Mademoiselle Winter dans une banlieue paisible et qu'il l'y maintienne jusqu'à ce que tout danger...
« Aille chose !»
dit froidement Mademoiselle de Merville.
« Je vous répète une dernière fois que je connais trois épisodes de la vie de mon fiancé, au cours desquels il a eu affaire avec des intrigantes, et je suis assuré de son sincère repentir pour tout le mal qu'il a pu commettre.
« Trois épisodes !»
hurla ma compagne.
« Idiote ! Pauvre idiote ineffable !»«
Monsieur Holmes, je vous serai reconnaissante de mettre un terme à cet entretien. »
dit la voix de glace.
« J'ai obéi à mon père en vous recevant, mais je ne suis nullement forcé d'écouter les délires de cette personne. »
Le juron aux lèvres, Mademoiselle Winter se roua en avant. Si je ne lui avais pas saisi le poignet, elle aurait attrapé aux cheveux la fille du général. Je la tirai vers la porte et j'eus la chance de la flanquer dans un fiacre sans soulever de scandale public. Elle ne se possédait plus. Quant à moi, Watson, quoique plus froid, j'étais furieux. C'est très déprimant de se heurter à une attitude hautaine, distante et au suprême contentement de soi de la femme qu'on essaie de sauver. Bien, vous voilà au fait de la situation. Il est évident que je dois manigancer autre chose, une nouvelle ouverture, car cette petite confrontation n'aura aucun effet. Je garderai le contact avec vous, Watson. Il est plus que probable que je vous réserverai un rôle à jouer dans ma prochaine pièce. Mais après tout, l'acte suivant pourrait bien être signé d'eux.
Il avait deviné juste.
Il n'y parviendra pas, Watson. Par le Seigneur, il n'y parviendra pas. Dites, Watson, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi.
Je suis ici pour vous être utile, Holmes.
Eh bien, consacrez les prochaines 24 heures à étudier de près les porcelaines chinoises.
Il ne me donna pas d'autres explications et je ne lui en demandai aucune. Une longue expérience m'avait enseigné à obéir sans discuter. Mais quand j'eus quitté sa chambre, je descendis Baker Street tout en cherchant comment je pourrais accomplir sa volonté. Finalement, tac criminel contre Sherlock Holmes. Je crois que je demeurai cloué sur place quelques instants. Il me semble qu'ensuite j'arrachai un journal des mains du marchand, que je me fis invectiver parce que je ne l'avais pas payé et que j'allais me réfugier devant la porte d'une pharmacie pour lire l'entrefilet fatal. En tout cas, voici son texte. « Nous apprenons avec regret que M. Sherlock Holmes, célèbre détective privé, a été ce matin victime d'une agression criminelle qui l'a laissé dans un état sur lequel il est trop tôt pour se prononcer. Les détails manquent encore, mais l'événement a dû se produire vers midi dans Regent Street, près du Café Royal. Deux individus armés de cannes ont attaqué M. Holmes, qui a reçu de multiples coups sur le corps et sur la tête. Les médecins considèrent son cas comme grave. Il a été transporté au Charing Cross Hospital, mais il a insisté pour être ramené chez lui à Baker Street. Ses agresseurs étaient correctement vêtus. Ils ont échappé à leurs poursuivants en traversant le Café Royal et en sortant par derrière dans Glasshouse Street. Ils appartiennent sans aucun doute à cette société du crime qui a eu tant d'occasions de se plaindre de l'activité et de l'habileté du blessé. Faut-il que j'ajoute qu'aussitôt je me jetai dans un fiacre et que je me fis conduire à Baker Street ? À la porte, attendait le landau de Sir Leslie Oakshott. Je me heurtai dans le vestibule au célèbre chirurgien.
« Aucun danger immédiat, me dit-il. De déchirures au cuir chevelu et de nombreuses meurtrissures. Plusieurs points de suture ont été indispensables. »«
Je crois pas qu'il en existe un en dehors de celui qui se trouve au palais impérial de Pékin. La vue de cet objet rendrait fou un vrai connaisseur. »«
Et que dois-je en faire ?» Holmes me tendit une carte sur laquelle était gravé « Docteur Hill Barton, 369, Half Moon Street. »
« Voilà comment vous vous appellerez ce soir, Watson, »
du blessé. Une traînée rouge avait traversé les compresses blanches. Je m'assis à côté de lui et je hochai la tête.
« Tout va bien, Watson. Ne faites pas attendre que vous passerez chez lui. Vous lui direz que vous lui apportez un échantillon d'un service parfaitement unique de porcelaine Ming. Vous pouvez bien être médecin, puisque vous savez... « J'ai détourné la plupart des coups, mais ils étaient deux. Le deuxième était de trop. »«
Que puis-je faire, Holmes ? Naturellement, c'est ce maudit baron qui est... »
« Compris.
Et quel prix ?»«
Bonne question, Watson. Vous seriez vite démasqué le grappin sur ses acolytes. Mais ils avaient bien préparé leur fuite. Attendez un peu. » J'ai mes plans. La première chose à faire est d'être de son client. Vous n'exagérerez point en affirmant qu'elle n'a, pour ainsi dire, pas sa pareille au monde.
Peut-être pourrais-je proposer que le service soit soumis à l'estimation d'un...
Ces champions vont maintenant s'attaquer à elle. Ils savent qu'elle est dans la course. Puisqu'ils ont osé s'en prendre à moi, il est probable qu'ils ne l'oublieront pas, elle. C'est urgent. Faites-le dès ce soir.
J'y vais. Et rien de plus ? Priez d'aller le porter à l'adresse indiquée. Le soir même, avec la précieuse soucoupe à la main et la carte du docteur Barton dans ma poche, je partis pour l'aventure, pour mon aventure.
Je m'arrangeai avec Johnson le soir même pour qu'il expédie Mademoiselle Winter dans une banlieue paisible et qu'il l'y maintienne jusqu'à ce que tout danger ait disparu.
Pendant 6 jours, le public demeura sous l'impression que Holmes était à la mort. Les bulletins de santé étaient... constitution, et sa volonté de faire faisait merveille. Il se rétablissait vite, et je me demandais parfois s'il ne se sentait pas mieux qu'il ne l'avouait, même à moi. En cet homme, il y avait une curieuse manie du secret, qui permettait des effets dramatiques, mais qui ne permettait même pas à son plus fidèle ami de deviner ses projets. Il poussait à l'extrême l'axiome selon lequel le conspirateur le plus assuré de réussir est celui qui conspire tout seul. J'étais plus proche de lui que n'importe qui au monde, et cependant, je savais qu'un abîme nous séparait. Le septième jour, on lui retira les agrafes. Les journaux du soir annoncèrent qu'il était atteint d'érysipèle. Ce même soir, ils annoncèrent aussi une nouvelle que j'étais tenu à communiquer à mon ami, qu'il fût malade ou bien portant. Parmi les passagers du bateau Ruritania de la compagnie Cunard, en partance vendredi de Liverpool,
plus que 3 jours. Je crois que le coquin veut se mettre hors de danger. Mais il n'y parviendra pas, Watson. Par le Seigneur, il n'y parviendra pas. Dites, Watson, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi.
Je suis ici pour vous être utile, Holmes.
Eh bien, consacrez les prochaines 24 heures à étudier de près les porcelaines chinoises.
Il ne me donna pas d'autres explications et je ne lui en demandai aucune. Une longue expérience m'avait enseigné à obéir sans discuter. Mais quand j'eus quitté sa chambre, je descendis Baker Street tout en cherchant comment je pourrais accomplir sa volonté. Finalement, je me fis conduire à la London. Et les beautés du Yunglo, les écritures de Tang Ying et les gloires de la période primitive du Sung et du Yan, ployant sous le fait de tous ces renseignements. Sa tête entourée de bandages reposait sur ses mains. « Ma foi, Holmes, lui dis-je, en croire les journaux, vous êtes agonisant. »«
C'est exactement l'impression que je veux répandre. Et vous, Watson, avez-vous bien appris votre leçon ?»«
Ah, du moins, j'ai essayé. »«
Bravo. Vous sentez-vous capable de soutenir une conversation intelligente ?»
Une fine soie d'Orient. Il la déplia et découvrit une soucoupe délicate d'un bleu profond extraordinaire.
« Il faut la manipuler avec précaution, Watson. C'est de la vraie porcelaine coquille d'œuf de la dynastie Ming. On n'a jamais rien fait de mieux depuis. Un service complet vaudrait un prix royal. En fait, je ne crois pas qu'il en existe un en dehors de celui qui se trouve au palais impérial de Pékin. » La vue de cet objet rendrait fou un vrai connaisseur.
Et que dois-je en faire ? Holmes me tendit une carte sur laquelle était gravé Docteur Hill Barton, 369, Half Moon Street.
Voilà comment vous vous appellerez ce soir, Watson. Vous allez vous rendre auprès du baron Gruner. Je connais quelques-unes de ses habitudes. À 8h30, il sera probablement libre. Un billet l'avertira à temps que vous passerez chez lui. Vous lui direz que vous lui apportez un échantillon d'un service parfaitement unique de porcelaine Ming. Vous pouvez bien être médecin, puisque c'est un rôle que vous jouez sans duplicité. Mais vous êtes surtout collectionneur. Compris. Et quel prix ? Bonne question, Watson. Vous seriez vite démasqué si vous ne connaissiez pas la valeur de cette marchandise. Cette soucoupe m'a été apportée par Sir James. Elle vient, d'après ce que j'ai compris, de la collection de son client. Vous n'exagérerez point en affirmant qu'elle n'a, pour ainsi dire, pas sa pareille au monde.
Peut-être pourrais-je proposer que le service soit soumis à l'estimation d'un... Priez d'aller le porter à l'adresse indiquée. Le soir même, avec la précieuse soucoupe à la main et la carte du docteur Barton dans ma poche, je partis pour l'aventure, pour mon aventure. La maison et tout le domaine indiquaient que le baron Gruner était, comme Sir James l'avait dit, fort riche. La longue avenue qui serpentait était bordée de massifs rares et débouchée sur un grand carré de gravier orné de statues. L'endroit avait été aménagé par un roi de l'or de l'Amérique du Sud au temps du grand boom. La longue maison basse, avec ses tourelles aux angles, véritable cauchemar pour un architecte, en imposait par ses dimensions et par son assise.
Vase brun. Je vous en prie, docteur, asseyez-vous, me dit-il. J'étais en train de contempler mes trésors et je me demandais si je pouvais réellement leur en ajouter un. Ce petit échantillon de tang, qui date du 7e siècle, vous intéresserait sans doute. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu un travail plus délicat, ni un coloris plus riche. Avez-vous la soucoupe Ming dont vous m'avez parlé ?
Je défis précautionneusement mon paquet et je la lui tendis. Il s'assit devant son bureau, approcha la lampe car il faisait sombre et entreprit de l'examiner. Pendant qu'il la considérait sous tous ses angles, la lumière jaune éclairant sa physionomie me permit de l'étudier à mon aise. Il était réellement très bel homme. La réputation que sa beauté
qui devait exercer sur les femmes un facile pouvoir de fascination. Cheveux et moustaches étaient noirs corbeaux. La moustache était courte et filée, comme estiquée. Mais si je n'avais jamais vu de bouche d'assassin, j'en avais une devant moi. On aurait dit une entaille sur la figure, mince, impitoyable, terrible. Il avait tort d'en écarter la moustache, car cette bouche était le signal d'alarme de la nature. Un avertissement pour ses victimes éventuelles. Il avait la voix engageante, des manières parfaites. Je lui ordonnais un peu plus de 30 ans. En réalité, comme je l'appris plus tard, il en avait 42. « Très joli. En vérité, très joli, » fit-il enfin. « Et vous dites que vous en avez un service de 6 ? Ce qui me confond, c'est que je n'avais pas entendu parler de ces magnifiques spécimens. » Je ne connais qu'un service en Angleterre capable de rivaliser avec eux. Encore, n'est-il certainement pas sur le marché. Serais-je indiscret si je vous demandais, docteur Barton, comment vous l'avez entre les mains ?
« Est-ce que cela vous intéresse vraiment ?» répliquai-je avec autant d'insouciance que j'en fus capable. « Vous pouvez voir que cette pièce est authentique. Quant à sa valeur, je me fierai tout simplement à l'estimation d'un expert. »«
C'est très mystérieux, »
murmura-t-il, tandis que dans ses yeux noirs s'allumait une rapide flamme de soupçon.
« Quand on traite sur des objets d'une telle valeur, il est normal qu'on désire tout connaître sur la transaction. » L'authenticité de cette pièce est incontestable, je ne la mets nullement en doute. Mais supposez, je suis bien obligé de faire entrer en ligne de compte toutes les hypothèses, qu'il s'avère ultérieurement que vous n'aviez pas le droit de vendre.
Oh, je vous garantirai contre une pareille objection.
Ce qui pose le problème de savoir quel crédit je pourrais accorder à votre garantie.
Mes banquiers vous répondraient ?
Bien. Mais il n'empêche que toute transaction me paraît hors des normes.
Vous pouvez faire affaire ou non, dis-je avec un air suprêmement détaché. Je me suis adressé à vous d'abord parce que j'avais appris que vous étiez un connaisseur, mais ailleurs je n'aurais pas de difficulté.
Qui vous a dit que j'étais un connaisseur?
J'ai su que vous aviez écrit un livre sur le sujet.
L'avez-vous lu?
Non.
Mon Dieu, je comprends de moins en moins. Vous êtes un connaisseur et un collectionneur. Vous possédez une pièce de grande valeur dans votre collection, et cependant vous n'avez même pas pris la peine de consulter le seul livre qui vous aurait renseigné sur le sens et la valeur de ce que vous détenez. Comment me l'expliquez-vous ?
Je suis très occupé, je suis médecin, j'ai une clientèle.
Ce n'est pas une réponse. Si un homme a une manie, il s'y consacre, quelles que soient ses autres occupations. Vous disiez dans votre lettre que vous étiez un connaisseur.
C'est vrai ?
Puis-je vous poser quelques questions pour le vérifier ? Je suis obligé de vous dire, docteur, en admettant que vous soyez docteur, que ce marché me paraît de plus en plus suspect. Je voudrais vous demander ce que vous savez de l'empereur Shomu et comment vous l'associez avec le Shozo-in près de Nara. Ah ! Cela vous embarrasse ? Eh bien, parlez-moi donc de la dynastie des Wei du Nord et de sa place dans l'histoire de la céramique.
Je bondis de mon fauteuil en feignant la colère. « Voilà qui est intolérable, monsieur, m'écriai-je. Je suis venu ici pour vous accorder une préférence, non pour être interrogé comme un écolier. Ma science sur ces sujets peut être inférieure à la vôtre, mais je ne répondrai certainement pas à des questions posées d'une manière aussi injurieuse. » Il me regarda fixement. Toute langueur avait disparu de ses yeux. Puis soudain, ceux-ci étincelèrent. J'entrevis l'éclat des dents blanches entre les lèvres cruelles.
« Quel jeu jouez-vous ? Vous êtes venu ici pour m'espionner. Vous êtes un émissaire de Holmes. Vous essayez de me duper. Il paraît que Holmes est mourant. Alors, il m'adresse ses valets pour me surveiller. Vous êtes entré ici sans ma permission, mais par Dieu, vous trouverez plus difficile de sortir que d'entrer. »
Il s'est élevé d'un bond et je reculai, me préparant à son attaque, car l'homme était hors de lui. Peut-être m'avait-il soupçonné dès l'abord, en tout cas, cet interrogatoire lui avait révélé la vérité. Il était clair que je ne pouvais plus espérer lui faire illusion. Il plongea ses mains dans un tiroir et le fouilla fébrilement. Mais il dut surprendre un bruit, car il s'arrêta pour écouter.
« Ah ! »
cria-t-il, et il se roua dans la pièce qui se trouvait derrière lui. En deux pas, j'arrivai à la porte. Toujours je me rappellerai la scène qui suivit. La fenêtre de cette deuxième pièce donnait sur le jardin. Elle était grande ouverte. À côté de la fenêtre, semblable à un fantôme terrible, le visage tiré et livide, se tenait Sherlock Holmes. L'instant d'après, il avait foncé de l'autre côté. Je l'entendis écraser les lauriers du jardin. Avec un hurlement de rage, le maître de la maison se précipita à sa poursuite par la fenêtre ouverte. Et alors, oh, ce fut fait en une seconde, je vis tout clairement pourtant. Un bras, le bras d'une femme surgit d'entre les branches de laurier. Au même moment, le baron poussa un cri horrible. Je l'entendrai toujours. Il plaqua ses deux mains sur son visage et revint dans la pièce en courant. Dans sa course, il se cognait la tête contre les murs. Puis, il tomba sur le tapis, boula et se tordit par terre pendant que ses cris résonnaient dans toute la maison.
« De l'eau ! Pour l'amour de Dieu, de l'eau »
hurlait-il sans discontinuer. Je m'emparai d'une carafe sur une table et me hâtai de lui porter secours. Au même moment, le maître d'hôtel et plusieurs valets de chambre accoururent. Je me rappelle que l'un d'eux s'évanouit pendant que j'étais agenouillé auprès du blessé et que j'avais exposé son visage atrocement défiguré à la lumière de la lampe. Le vitriol était en train de le ronger et s'égoutter des oreilles et du menton. Un œil était déjà blanc, vitreux. L'autre était rouge et enflammé. La physionomie que j'avais admirée un peu plus tôt ressemblait à une belle toile sur laquelle l'artiste aurait passé une éponge humide et méphitique. Elle était devenue brouillée, décolorée, inhumaine, terrifiante. En quelques mots, j'expliquais exactement ce qui était arrivé, du moins en ce qui concernait l'agression au vitriol. Quelques valets avaient sauté par la fenêtre, d'autres fouillaient le jardin, mais il faisait nuit et la pluie commençait à tomber. La victime ne s'arrêtait de hurler que pour pousser des cris de rage contre celle qui s'était vengée.
« C'est ce chat de l'enfer! C'est Kitty Winter! Oh la diablesse, elle paiera! Oui, elle paiera! Oh Dieu du ciel, cette douleur est plus que je ne peux supporter !»
Je baignai son visage dans l'huile, je mis de l'ouate sur sa peau à vif, je lui administrai une piqûre de morphine. Il oubliait de me soupçonner tant le choc l'avait bouleversé. Il se cramponnait à mes mains comme si j'avais le pouvoir de redonner vie à ses yeux de poisson mort qui me regardaient. J'aurais pleuré sur ce désastre physique si je ne m'étais souvenu de la vilainie de son existence. C'était elle la responsable de cette ruine. J'aurais pugné à sentir l'étreinte de ses mains brûlantes. L'arrivée du médecin de famille me soulagea. Un spécialiste suivit. Un inspecteur de police ne tarda point. Je lui tendis ma vraie carte de visite. Il aurait été puéril et inutile d'agir autrement, car à Scotland Yard, tout le monde me connaissait presque autant que Sherlock Holmes. Puis je quittai cette maison sinistre. Moins d'une heure plus tard, j'étais à Baker Street. Holmes était assis dans son fauteuil habituel. Il semblait très pâle, épuisé. Outre ses blessures, les événements de la soirée avaient ébranlé ses nerfs d'acier et il écouta avec horreur ma description de la transformation du baron.
« Le salaire du péché, Watson, le salaire du péché, me dit-il. Tôt ou tard, on le reçoit toujours, Dieu le sait. Il avait suffisamment péché, ajouta-t-il en prenant sur la table un livre brun. Voici le livre dont la fille nous avait parlé. S'il ne rompt pas les fiançailles, rien n'y fera. Mais il les rompra, Watson, il le faut. Aucune femme ayant le respect de soi-même n'y résisterait.
C'est son carnet d'amour ?
Ou plutôt de luxure, appelez-le comme vous voudrez. Dès que la fille Winter nous en avait appris l'existence, j'avais compris qu'il serait une arme formidable si nous pouvions nous en emparer. Je n'en avais rien dit sur le moment, car la fille aurait pu bavarder. Mais j'ai ruminé l'histoire. Et puis il y a eu l'agression. Elle m'a fourni la chance de faire croire au baron qu'il n'avait plus besoin de se méfier de moi. Tout s'est passé au mieux. J'aurais bien attendu un peu plus longtemps, mais son projet de voyage en Amérique m'a forcé la main. Il ne serait jamais parti en abandonnant derrière lui un document aussi compromettant. J'étais donc obligé d'agir sans délai. Un cambriolage nocturne était impossible, puisqu'il avait combiné un dispositif d'alarme. Mais le soir, il y avait un risque à prendre, à condition que je fusse assuré que son attention était retenue ailleurs. Voilà pourquoi vous et votre soucoupe vous êtes entrés en scène. Seulement, il me fallait savoir avec précision où était le livre, car je me doutais bien que je ne disposerais que de quelques minutes pour travailler. Mon temps était limité par vos connaissances sur la porcelaine chinoise. Je convoquai donc la fille au dernier moment. Comment aurais-je pu deviner ce que contenait le petit paquet qu'elle portait avec tant de précautions sous son manteau, ça ? J'avais cru qu'elle était venue uniquement pour mon affaire, mais il semble qu'elle s'est occupée aussi de la sienne.
Il avait deviné que c'était vous qui m'aviez envoyé.
Oui, je craignais cela, mais vous l'avez tenue en haleine assez longtemps pour que j'aie pu m'emparer du livre, pas assez toutefois pour que j'aie pu m'enfuir sans avoir été vu. « Ah, Sir James, je suis très content que vous soyez venu. »
Notre ami mondain répondait à une convocation qui lui avait été adressée tout à l'heure. Il écouta, avec le plus vif intérêt, le récit de tous les événements.
« Vous avez fait merveille, merveille !» s'exclama-t-il. « Mais si ces blessures sont aussi terribles que les décrit le docteur Watson, alors notre projet de contrecarrer le mariage réussira sans qu'il soit nécessaire d'utiliser ce livre infâme. »
Holmes hocha la tête. «
Des femmes comme Mademoiselle de Merville ne se conduisent pas ainsi.
Elle l'aimerait encore davantage sous les traits d'un martyr défiguré. Non, c'est son aspect moral, pas son aspect physique, que nous devons détruire. Ce livre la ramènera sur terre, et je ne vois rien d'autre qui y parviendrait. Il est de sa propre écriture, elle ne peut pas le récuser.
Sir James emporta le livre et la soucoupe précieuse. Comme j'étais moi-même en retard, je descendis en sa compagnie. Une charrette anglaise l'attendait. Il sauta dedans, donna un ordre bref au cocher qui portait une cocarde, et la voiture s'éloigna rapidement. Il eut beau faire retomber la moitié de son manteau pour recouvrir les armoiries de la portière, j'eus quand même le temps de les reconnaître. J'en demeurai bouche bée. Puis je fis demi-tour et je regagnai la chambre de Holmes. « J'ai découvert qui est notre client !» m'écriai-je tout fier de ma nouvelle. « Eh bien, Holmes, c'est... »«
C'est un ami loyal et un gentilhomme chevaleresque !»
interrompit Holmes en levant une main pour m'arrêter dans mon élan.
« Que ceci nous suffise maintenant et pour toujours. »
J'ignore comment le livre infâme a été utilisé. Peut-être Sir James s'en est-il chargé, mais il est plus probable qu'une mission aussi délicate a été confiée au père de la jeune fille. En tout cas, l'effet a été décisif et conforme à nos espoirs. 3 jours plus tard, le Morning Post publiait un entrefilé annonçant que le mariage du baron Adelbert Gruner avec mademoiselle Violette de Merville n'aurait pas lieu. Le même journal contenait le compte-rendu de la comparution de mademoiselle Kitty Winter devant le tribunal sous la grave inculpation d'avoir lancé du vitriol. Le procès a fait ressortir de telles circonstances atténuantes que le verdict, on s'en souvient, a été le plus indulgent possible. Sherlock Holmes s'est trouvé menacé de poursuites pour cambriolage, mais quand un objectif est bon et un client suffisamment célèbre, la loi anglaise elle-même devient humaine et élastique. Mon ami ne s'est pas encore assis sur le banc des inculpés.